Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment mieux conjuguer aquaculture et biodiversité marine ? Réponse : l'aquaculture multitrophique intégrée. Sous ce nom compliqué, il y a l'idée de s'éloigner de la monoculture pour associer intelligemment des espèces marines et mieux préserver les milieux. Avant d'en parler dans quelques minutes avec Stéphanie Pédron, directrice du Centre d'études et de valorisation des algues, direction Plouguerneau dans le Finistère, où un exploitant aquacole a décidé d'utiliser cette technique. C'est un reportage d'Anna Labasque de Radio Mutine, votre radio associative brestoise.
Donc là, les ormeaux qui sont là, c'est des ormeaux qui ont 3 ans et quelques mois et qui sont arrivés ici parce qu'on va les récolter. On voit qu'ils ont été nourris il n'y a pas très longtemps avec de la dulce, la palmaria palmatin. Ils n'ont pas fini de manger encore. Et les ormeaux, c'est des ormeaux qui vont faire une cinquantaine de grammes. Alors on est à Plouguerneau, on est sur les bords de l'Abervrac. Je suis Sylvain Huchette, je suis le fondateur de France Halieutis. Alors France Halieutis, c'est une entreprise qui a été créée en 2004, donc ça fait 18 ans, qui est dédiée à la base à l'élevage de l'ormeau. L'idée étant de faire de la reproduction, de l'écloserie en fait. Et puis progressivement, on a appris à connaître l'ormeau, à mieux le connaître, à connaître ses besoins, et notamment on a développé l'activité autour de l'ormeau, et donc l'activité de cueillette d'algues et de valorisation des algues est arrivée en parallèle. Et petit à petit, en fait, on s'est intéressé à toutes ces espèces différentes qui gravitent autour de l'ormeau. Et notre élevage se passe principalement en pleine mer, c'est-à-dire qu'on est à l'entrée de l'Abervrac, dans des zones qu'ils ne découvrent pas avec les marées. Et le fait d'avoir un cycle d'élevage très long nous impose de travailler avec le milieu et puis avec les difficultés que ça peut poser au niveau de la météo.
Quelle place occupe l'ormeau dans la biodiversité ?
L'ormeau, c'est un animal un peu emblématique de la Bretagne. C'est un gastéropode, c'est un brouteur d'algues. Et cet ormeau, il va avoir besoin de beaucoup d'algues pour faire sa croissance. Un herbivore comme l'ormeau, il a besoin d'une quinzaine de kilos d'algues pour faire un kilo d'ormeau. Et c'est une croissance qui est très lente parce qu'un ormeau, pour arriver à taille adulte et commerciale, on a besoin d'au moins 3 ans, voire 4 ans.
Et donc pourquoi c'est important d'avoir des lieux comme ici, France Halieutis, à Plouguerneau, avec des parcs d'ormeaux ?
L'ormeau, malheureusement, c'est un animal qui s'est raréfié au fil des années. Enfin, c'est surtout depuis les années 80, depuis que la pêche a commencé à s'intensifier. Les transports ont permis d'expédier des ormeaux partout dans le monde. Et puis le marché de l'ormeau, c'est l'Asie. La demande était très forte et donc la pression de pêche a progressivement augmenté. Et puis il y a aussi eu, dans la fin des années 90, un problème de mortalité avec un pathogène qui était spécifique à l'ormeau et qui a décimé les populations d'ormeaux un petit peu partout en Bretagne. Donc on est dans une situation où la population naturelle, elle est en difficulté. Et d'avoir un élevage qui puisse assurer la reproduction de l'espèce et puis de la conserver un petit peu dans le milieu, ça permet d'avoir une assurance en fait pour l'avenir. La température à Plouguerneau, elle est à la limite de ce que l'ormeau peut supporter en termes de froid. Et en même temps, c'est intéressant parce que le froid des eaux locales, ça nous permet d'avoir des champs d'algues bien développés et ça protège ces algues. Les espèces d'algues qui poussent là sur la cage, c'est des espèces d'eau froide qu'on va trouver essentiellement en Europe du Nord. Et en fait, c'est un vrai écosystème qui se met en place. Alors il y a des choses qu'on va aider, qu'on va faciliter nous-mêmes, on va jardiner, on va dire. Les cages d'élevage, elles sont immergées à l'entrée de l'Abervrac depuis 2 ans et demi, voire 3 ans. Et au fil du temps, elles deviennent des vrais récifs artificiels où il y a des communautés d'algues, mais aussi d'animaux qui viennent s'installer. Et en fait, c'est un vrai écosystème qui se met en place.
Tu as au moins 200 espèces d'algues sur ta cage.
Il y en a un paquet, ouais.
En Bretagne, on a entre 600 et 800 espèces d'algues. C'est le plus gros hotspot en termes de diversité algale dans le monde, en fait, l'un des plus gros. Jean Gracien, je travaille au CEVA, donc le Centre d'études et de valorisation des algues, en tant qu'ingénieur en algoculture. Et là-bas, je travaille beaucoup sur tout ce qui est protocole expérimentaux, en fait, sur la culture des algues. Donc tester des nouvelles techniques de culture, des nouvelles espèces. L'aquaculture même de base en France n'a pas trop la côte pour l'instant, ça commence à changer. Pourtant en fait de l'aquaculture en France on en a énormément, on est l'un des plus gros producteurs parce qu'on produit des huîtres. Et les huîtres c'est de l'aquaculture en fait. Mais vu que c'est pas ce terme là qui est utilisé, et ben en fait quand on parle d'aquaculture, la majorité du grand public va penser poisson, il voit les grandes piscicultures norvégiennes, et forcément nous n'en avons pas envie, ce qui est normal, nous non plus en fait. Mais l'aquaculture c'est très vaste.
Donc là on se dirige vers les bassins.
Alors là, c'est les nouvelles installations qu'on a fait pour cultiver des algues un peu plus fragiles comme la laitue de mer. Attention, il y a quelques obstacles. Et si on se rapproche, on va entendre les roues à eau qui brassent les bassins. L'idée, c'est de maintenir les algues toujours en mouvement. L'algue a besoin de lumière, mais il ne faut pas qu'elle reste exposée à la lumière trop longtemps. Donc dans ces bassins, on crée des turbulences exprès pour que les algues soient remuées en permanence. Et c'est une solution qu'on a trouvée pour produire des algues en dépensant le moins d'énergie possible.
Là on voit elles sont bien vertes, donc elles sont chargées en protéines, elles sont en pleine croissance. Elles ont repris des couleurs. Souvent à la fin de l'été on les voit, elles sont très claires en fait parce qu'elles sont carencées. Donc moins de protéines, moins de chlorophylle forcément.
Et donc ces algues-là, ce sont celles qui vont se retrouver ensuite dans les cages pour les ormeaux.
En partie, puis dans les bassins de nurserie pour nourrir les bébés ormeaux. C'est vraiment une algue qui est facile à manger pour eux et qui leur apporte beaucoup de protéines.
Peut-être qu'on peut aller faire un tour du côté de la nurserie.
Si on veut,
ouais, bien sûr. Alors ici, on est dans la nurserie. Et dans la nurserie, on cultive aussi les algues, mais cette fois-ci, on cultive des algues qui sont encroutantes. Elles viennent pousser sur des plaques. Ces algues, on va les utiliser pour attirer les larves d'ormeaux. Et les ormeaux vont brouter ces algues jusqu'à ce que les plaques soient toutes propres. L'idée d'avoir cette nurserie d'ormeaux, c'est de pouvoir produire les ormeaux qui vont nous être utiles pour la génération suivante, en fait. Chaque année, on va sortir à peu près 300 000 ormeaux de ces bassins pour remplacer les 300 000 ormeaux qu'on aura vendus, récoltés l'année d'avant. On a choisi avec France Halieutis de toujours commercialiser notre production en circuit court. Donc on commercialise les ormeaux auprès des restaurateurs, directement sortis de l'élevage. Et nos ormeaux finissent sur les tables bretonnes principalement. On va commercialiser à peu près 60% de la production en Bretagne. Et puis le reste dans les étoilés français, sur les tables étoilées principalement. Et aujourd'hui vient s'ajouter en fait des algues qu'on transforme, qu'on sèche, qu'on va broyer et puis qu'on va proposer aux restaurateurs, aux chefs, d'utiliser comme ingrédient dans leur préparation. Et c'est surprenant de voir que les restaurateurs aujourd'hui se prennent de passion pour l'algue et sont prêts vraiment à les utiliser et les intégrer dans leurs recettes. Ici, dans le secteur, on a Nolwenn Corr qui est à la Pointe Saint-Mathieu et on travaille avec elle à la fois sur les ormeaux et sur les algues. C'est une chef qui est très intéressée par les produits du terroir et de pouvoir travailler en local comme ça avec des gens passionnés, c'est génial.
Dans les années à venir, comment est-ce que vous voyez alors cette co-culture d'ormeaux et d'algues ?
Moi, elle est devenue indispensable. Cultiver les algues en parallèle des ormeaux, ça me fait gagner beaucoup de temps, d'énergie. Et je pense qu'on va développer ça et amplifier cette co-culture.
Et Jean, avec votre regard d'ingénieur du CEVA, comment est-ce que vous voyez ça ?
C'est ce côté vertueux qu'on essaie de communiquer. Maintenant, il faut le réaliser, en fait. Il faut montrer que c'est possible. Bien sûr, il y aura des questions par rapport aux échelles des cultures qu'on va faire. Pour moi, c'est un peu difficile de convertir actuellement tout ce qui est déjà à très grande échelle, donc intensif, de le coupler tout ça d'un coup. Par exemple, si on veut aspirer tout ce que produit une énorme pisciculture en mer, faudrait des hectares et des hectares d'algues. Et ça, c'est pas possible en fait. Donc peut-être penser à réduire et à produire en fait moins mais mieux, tout en communiquant sur les usages que la mer reste un espace libre, mais à la fois encadré pour la protéger.
À l'instant, ce reportage sur cette expérience d'aquaculture multitrophique intégrée, réalisée dans cette exploitation de France Halieutis à Plouguerneau. Un reportage signé Annaëlle Abasque de Radio Mutine, votre radio associative dans la région de Brest. Alors, pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en liaison avec Radioactive à Langueux, près de Saint-Brieuc, avec Stéphanie Pédron, directrice du CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues. Bonjour Stéphanie Pédron.
Bonjour.
Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce qu'est le CEVA et ses missions ?
Alors le CEVA, c'est un centre de technique et de recherche appliquée et d'innovation. Il est positionné en fait entre la recherche académique et les industriels. Donc CEVA, ça signifie en fait centre d'études et de valorisation des algues. Et nous sommes spécialisés dans la recherche destinée sur les macro-algues, les micro-algues et les végétaux marins. Donc on est basé à Pleubian, dans les Côtes d'Armor. On est un centre technique doublement qualifié, Institut technique agricole et Institut technique agro-industriel, pour signifier également que nous sommes positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça fait effectivement 40 années que nous existons en 2022, et nous poursuivons des missions d'accompagnement des acteurs, aussi bien des gestionnaires de l'eau ou du milieu naturel, des aquaculteurs ou des industriels, dans différentes missions que sont par exemple la compréhension du fonctionnement des algues d'une manière générale, aussi bien liées en leur milieu naturel que liées à des dérèglements qu'ils peuvent engendrer, les fameuses marées vertes. La mise en collection également de ces espèces, la maîtrise de leur reproduction, leur mise en culture, aussi bien en mer qu'à terre. Et on travaille également sur l'intégration des algues dans des recettes destinées à l'alimentation humaine, par exemple, ou à l'alimentation animale, dans des crèmes de beauté, ou encore comme agents biostimulants ou de biocontrôle en nutrition végétale. Donc on est structuré en trois pôles, comme je disais, de l'amont à l'aval de la filière. Et un des enjeux aussi pour nous dans l'avenir, c'est de travailler justement sur ces aspects de co-culture et sur des objectifs aussi de traitement des effluents agricoles et industriels par les algues.
Donc il y a à la fois les aspects positifs des algues, comment on peut les utiliser à bon escient, et puis aussi travailler forcément sur ces histoires aussi de marée verte qu'on connaît beaucoup en Bretagne, c'est ça?
Exactement, il y a des missions d'intérêt général que l'on mène, qui sont plutôt concernées par l'amont de la filière, et également des méthodes ou des recherches et développements sur leur utilisation à destination de différents marchés.
Alors comment réagissez-vous au reportage que l'on a entendu il y a quelques instants et qui illustre ce que l'on appelle chez vous les AMT ou les AMT, l'aquaculture multitrophique intégrée, drôle de nom assez scientifique finalement.
Oui, tout à fait. Alors c'est un reportage qui est sonore, donc c'est vrai que c'est pas habituel quand on a l'habitude de travailler en aquaculture, c'est plutôt l'odorat ou la vue qui sont sollicités en général. Ouais. C'est un reportage qui est très réussi car il nous fait vraiment vivre en fait l'univers qu'est l'aquaculture multitrophique intégrée de l'intérieur. Et c'est vrai qu'il laisse quand même une part d'imaginaire que représente le monde marin évidemment, et permet de s'y immerger tout en ayant les explications d'une part de Sylvain Huchette et de Jean Gracien du CEVA sur cette technique. Donc c'était effectivement très intéressant d'avoir aussi cette vision en fait et scientifique et de chef d'entreprise.
Alors rentrons tout de suite dans cette matière des AMT. Qu'est-ce qu'on entend spécifiquement par aquaculture multitrophique intégrée? Qu'est-ce que veut dire un peu ce nom un peu barbare?
Alors en fait, à la base, c'est un concept, mais c'est également un mode de culture qui est basé sur la mise en relation de diverses productions aquacoles. Donc l'AMTI, en fait, ça constitue une nouvelle façon de penser à l'égard de la production d'aliments d'origine aquatique, donc qui est vraiment fondée sur un concept de recyclage. Et donc plutôt que de produire en fait une seule espèce, comme on a l'habitude de le connaître sous forme de monoculture d'huîtres ou de moules, par exemple, ici, en fait, on va se concentrer principalement sur les besoins d'une espèce, de plusieurs espèces. L'AMTI, en fait, va imiter un écosystème naturel en combinant l'élevage de diverses espèces complémentaires à partir de divers maillons de la chaîne trophique, de la chaîne alimentaire.
Donc là, on se différencie clairement de la monoculture. L'idée, c'est vraiment de faire cohabiter différentes cultures ensemble, c'est ça?
Exactement. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs espèces originaires de différentes catégories, c'est-à-dire des algues, des coquillages, qu'on va appeler des filtreurs, etc., et qui vont finalement jouer un rôle différent au sein de cette nouvelle unité de production.
Alors justement, on va parler du rôle et des atouts de cette technique dans un instant, mais est-ce que c'est une nouvelle technique en France ou est-ce qu'elle est déjà utilisée aussi ailleurs dans le monde ?
Alors c'est une technique qui est connue depuis plusieurs décennies en fait, parce qu'elle est plutôt basée originellement en fait sur des systèmes d'eau douce, sur l'aquaponie par exemple, qu'on a l'habitude de connaître, plutôt que sur l'eau de mer, et donc plutôt à terre qu'en mer. Mais c'est effectivement une technique qui est connue en France comme dans le monde entier depuis plusieurs décennies, comme je le disais. Donc c'est vrai que pour l'aquaculture en pleine mer, comme vous avez pu le voir en fait dans le Finistère, il y a des projets d'AMTI qui ont vu le jour en France au CEVA, puisqu'on a une concession nous de recherche et développement. développement en pleine mer. Mais il y a aussi des producteurs d'algues qui ont mis en place des prototypes sur la base en fait, d'études qui avaient eu lieu, par exemple, sur des casiers flottants développés en Australie ou en zone intertidale ou en lagon, par exemple. Donc à l'heure actuelle, il y a vraiment très peu de sites en mer qui proposent des systèmes d'aquaculture de type AMTI et qui ont été développés en France. Hein. C'est le cas de la société Symbiomer, par exemple, qui travaille dans l'estuaire du Trieux, ou de la société Algolesco en Sud-Finistère. Donc voilà, après, nous, en tant que CEVA, on dispose également, par ailleurs, d'une concession aquacole expérimentale sur laquelle on est habilité à conduire des essais de culture de coquillages, d'oursins et de macro-algues. Donc on réalise en fait des projets nationaux, européens, internationaux, sur lesquels on va mettre en co-culture différentes espèces pour voir quels vont être les flux et les bénéfices finalement pour chacun des organismes constitués de cette unité de production.
Alors expliquez-nous, en quoi cette technique de co-culture dans les exploitations aquacoles est-elle plus vertueuse pour la protection de l'environnement, pour la préservation aussi de l'écosystème marin ?
Ben en fait, l'apport de biodiversité animale et végétale au sein d'une même unité de production permet la diminution de l'impact des pratiques d'élevage sur la qualité de l'eau. Donc ça, c'est déjà un élément qui est en soi intéressant, puisqu'effectivement, certaines espèces vont jouer le rôle de filtreur. Et c'est également une technique, une solution qui encourage une meilleure gérance de l'environnement, tout en augmentant en fait les retombées économiques pour les producteurs et les communautés, puisque ça peut permettre également d'avoir des effets bénéfiques en termes de diminution des épizoots aussi, par exemple, des maladies bactériennes ou de certaines espèces qui vont venir manger en fait ou avoir un impact sur certaines espèces de coquillages. Donc en ayant par exemple un apport bénéfice santé sur certaines espèces de coquillages, les algues vont voilà permettre également d'avoir des bénéfices globaux sur l'environnement.
Un des atouts des algues, c'est notamment ce rôle de filtre dont vous parliez à l'instant.
Exactement, tout à fait. Ce sont des organismes qui vont permettre la filtration de particules fines qui sont en fait en suspension, qui vont être extraites de la colonne d'eau par ces organismes filtreurs que sont les moules, les huîtres et les pétoncles de la même manière, tout à fait.
Alors justement, si on reprend plus concrètement l'exemple du reportage, de quelle façon, là concrètement, les algues en co-culture avec les ormeaux viennent jouer un rôle important pour justement redonner ce nouvel équilibre à l'écosystème de la zone de culture?
Alors les algues marines en fait sont positionnées un peu à l'écart en fait du site de production, dans la direction du courant, de façon à ce qu'elles puissent extraire une partie des nutriments inorganiques dissous dans l'eau, comme l'azote et le phosphore. Donc là, en fait, la particularité du reportage ici, c'est que les algues sont également utilisées pour nourrir les ormeaux, les tout petits ormeaux hein, dans la phase de nursery, et également en pleine mer, ce qui permet aussi de limiter l'impact de la récolte sur le milieu et une meilleure gestion des stocks d'algues. Donc la concession d'algues voilà, permet aussi par ailleurs de créer un habitat propice à la biodiversité, puisque les concessions en elles-mêmes peuvent permettre à certains organismes de venir soit s'y reproduire, soit voilà, trouver refuge contre des prédateurs, par exemple.
Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'atouts à cette technique. On se demande même pourquoi, finalement, elle n'a pas été utilisée avant. Qu'est-ce que ça implique, justement? Est-ce que c'est beaucoup de contraintes, justement, aussi pour les exploitants? En tout cas, est-ce que si elle était développée à grande échelle, est-ce qu'elle permettrait de limiter, selon vous, considérablement les effets néfastes de la pêche, de la culture aquacole intensive sur la biodiversité marine?
Le besoin en fait, de sources de nourriture durable, il augmente hein, à mesure que la population humaine continue de croître. Donc c'est vrai que c'est un enjeu très important à l'heure actuelle. Donc on s'attend à ce que la pêche traditionnelle, à elle seule, en fait, ne réussisse pas à s'adapter à la demande croissante en poissons, en fruits de mer ou en plantes marines. Donc la MTI, effectivement, constitue une solution d'aquaculture qui est recommandée par la FAO. Alors, la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies, pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, dans son rapport de 2018, justement, elle faisait état de cet intérêt grandissant pour l'aquaculture et en particulier pour l'aquaculture multitrophique intégrée. Donc, il y aurait effectivement un enjeu à développer en fait ce type de technique à une échelle globale. D'ailleurs, on travaille, nous, au CEVA, sur un projet qu'on appelle Adébiome, qui, dans son approche, en fait, va permettre l'utilisation de marqueurs de qualité du milieu pour justement évaluer dans l'espace et dans le temps le potentiel de telles structures en fait en tant qu'outil de préservation et de valorisation de la biodiversité marine locale. Donc c'est véritablement ces structures aquacoles qui sont envisagées comme des zones refuges et qui peuvent permettre à certaines espèces sessiles ou d'autres de venir en fait de s'intégrer à cette concession et de les envisager véritablement comme des stations d'observation marine qui seraient indicatrices de la qualité du milieu et donc de la qualité de l'eau. Donc c'est véritablement un des nouveaux écosystèmes, en fait, hein, comme on pourrait le concevoir dans le cadre d'aires marines protégées, par exemple, qui vont venir voilà, rendre un service environnemental, écosystémique à l'environnement.
Alors on vient de parler des atouts nombreux pour l'environnement, pour la biodiversité marine. Est-ce que ces techniques, en même temps, permettent aussi de garantir, puisqu'on parlait aussi de pouvoir nourrir la planète à l'horizon 2050 et au-delà, est-ce que ça permet de garantir des rendements suffisants aussi pour les pêcheurs et aquaculteurs ? Ou est-ce que ça les contraint ?
Alors c'est effectivement ce qu'on cherche à démontrer, hein. Ça reste encore aujourd'hui complexe, c'est d'ailleurs un des freins au développement maximum en fait, de cette aquaculture multitrophique intégrée, c'est qu'on cherche encore aujourd'hui, on est sur beaucoup de travaux de recherche et développement, et on cherche à démontrer justement par les projets que l'on mène, hein, cet intérêt grandissant en termes de flux, en termes d'espèces aussi, parce que l'intérêt c'est justement de pouvoir savoir quelles sont les espèces qui vont cohabiter et qui vont apporter la meilleure solution, soit en termes d'environnement, soit en termes économiques aussi pour les aquaculteurs. Donc c'est des travaux qui sont menés et qui devront être poursuivis en fait dans les prochaines années.
Et justement, comment vous, Oseva, vous arrivez petit à petit à peut-être à mesurer ces impacts positifs de cette technique ? Je crois que vous avez mis en place notamment auprès de Pleubian dans vos concessions ce qu'on appelle un concept de concession connectée.
Oui, tout à fait. On a effectivement profité de l'appel à projet dans le cadre du plan de relance sur les dernières années pour pouvoir proposer un projet de plateforme connectée. Alors, on a déjà une plateforme en mer hein, de 6 hectares qui nous permet un certain nombre d'expérimentations algales, d'itinéraires techniques, etc. Et là, l'objectif, c'est que sur les prochains mois, l'installation devrait avoir lieu en mars de cette année, une concession effectivement connectée, donc sur laquelle on va positionner un certain nombre de capteurs, un certain nombre de systèmes de prélèvement automatique d'eau également, et d'aller de prélèvements humains qui vont très régulièrement avoir lieu pour permettre en fait de suivre justement ces concessions de manière automatisée et de suivre ces flux de matière pour pouvoir avoir des éléments quantitatifs parce que c'est vrai qu'on manque énormément de données pour justifier de cet intérêt. Théoriquement, on le sait. Après, de pouvoir le justifier avec un certain nombre de données, il y a déjà des projets qui ont lieu à l'échelle internationale, mais c'est vrai qu'on cherche à aller encore plus loin.
C'est justifier à la fois le côté rendement et aussi justifier le côté impact positif pour l'environnement. C'est bien ça, c'est ce que va permettre ces concessions connectées.
Exactement, tout à fait. Avec un volet supplémentaire de biodiversité, puisque là encore, on suivra en fait sur cette concession, par l'intermédiaire de prélèvements notamment, les différentes espèces qui viendront s'implanter en fait sur cette concession. Donc on aura une richesse spécifique, donc l'intégralité des espèces qui viennent s'y intégrer de manière régulière.
On avait l'exemple de l'application de ces techniques dans le reportage tout à l'heure à Plouguerneau, dans cette concession de France Aliotis. Est-ce que c'est difficile de convaincre finalement de plus en plus d'exploitants de mettre en place cette technique ? Et d'ailleurs, quel rôle joue le CEVA pour arriver à démocratiser ou à convaincre de l'utilité et du bien fondé de cette technique ?
Alors oui, ça peut être compliqué parce qu'il y a aussi voilà, un certain nombre d'investissements à mettre en place hein, en termes de, voilà, de bateaux, de mise en place des concessions en mer, etc. Sachant que par ailleurs, voilà, c'est des demandes spécifiques qu'il faut réaliser auprès de l'administration. Donc là, en l'occurrence, la direction départementale des territoires et de la mer, hein, les DDTM sur chacun des territoires départementaux, et pour lequel voilà, il y a effectivement un certain nombre de limites, notamment en termes de connaissance des différentes espèces, puisque pour mettre en place de la culture, voilà, il faut aussi maîtriser les différentes espèces qu'on va mettre en culture et avoir des concessions en mer. Et c'est vrai que quand on connaît les difficultés pour disposer en fait d'un certain nombre d'espaces en mer pour de la culture, voilà, on est confronté également au même titre que d'autres autres usagers de la mer à cette réduction de l'espace maritime, en tout cas de sa mise à disposition, parce qu'elle appartient à tous et à un certain nombre de professionnels aujourd'hui. Donc c'est effectivement une des contraintes. Donc nous, en termes de centre de recherche, on participe à l'exploration en fait de différentes voies d'application de ce concept, hein, sous différentes approches complémentaires. Donc on peut mettre en place des solutions techniques de diversification, donc comme je vous le disais, principalement via la maîtrise des différentes espèces en fait qui vont composer une unité de production. C'est globalement des fermes aquacoles françaises, hein, sur lesquelles on a contribué à développer, notamment en Normandie. La définition de standards également et de bonnes pratiques à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale. Donc ça, c'est un projet, par exemple, le projet Integrate, hein, sur lequel on a travaillé sur l'arc atlantique avec aussi bien le Portugal que l'Irlande, et sur lequel il y a un Integrate 2 qui est aujourd'hui en place. Et également, la proposition de méthodologie de monitoring, également, comme je viens de le souligner, sur des aspects connectés, par exemple, de la MTI, donc adaptée à des systèmes ouverts en mer, ce qui permet aussi de piloter à différentes échelles, finalement, la mise en place de ces systèmes, puisqu'on peut être à une échelle, donc à terre, très fermée. Mais lorsque l'on va travailler en mer, on peut travailler à une échelle locale de la concession. Et nous, dans le cadre d'un projet que l'on appelle AMIMA, d'Agri-Food Transition, on va travailler en fait sur un projet à l'échelle d'une baie. Donc là, on est sur la baie du Trieux et on va essayer de mesurer les bénéfices environnementaux et les flux d'une concession multitrophique intégrée entre les différentes unités de production également des autres aquaculteurs. Donc il reste encore beaucoup à faire, hein, oui. en particulier à caractériser les relations trophiques en fait qui vont exister à différentes échelles et en milieu ouvert. On y travaille et l'objectif c'est véritablement pour nous d'arriver à la définition d'indicateurs et des méthodologies associées, c'est certain.
Est-ce que c'est pour les exploitants qui sont souvent en monoculture, est-ce que ça correspond finalement presque à une révolution culturelle dans leur façon de travailler, finalement ?
Oui, on pourrait parler de ça. Oui, on parle aujourd'hui beaucoup depuis quelques années de la révolution des algues. Mais oui, effectivement, c'est des cheminements. Après, on pourrait comparer ça à l'agriculture. On voit que de plus en plus, de la même manière, il y a un certain nombre d'agriculteurs aussi qui changent de système, qui parlent de méthanisation ou qui vont parler de permaculture. Enfin voilà, on parle véritablement en fait d'un changement, sans parler de bouleversement, mais sociétal, social, et sur lequel effectivement, au niveau professionnel, il faut aussi changer un peu de méthodologie. Alors c'est pas nécessairement à homogénéiser et à mettre en place partout, mais effectivement lorsque l'environnement s'y prête, ça semble pertinent.
Alors justement pour nos auditeurs, mais aussi pour les exploitants qui voudraient peut-être passer à cette technique, pour aller plus loin dans l'exploration et la compréhension de l'aquaculture multitrophique intégrée dont on vient de parler, quelles références pourriez-vous peut-être nous conseiller, peut-être déjà votre site internet au CEVA ?
Oui, tout à fait. Vous retrouverez effectivement sur notre site internet dans la partie documentation avec il y a peut-être un petit onglet aquaculture multitrophique intégrée, un certain nombre de références. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le rapport effectivement de la FAO de 2018 qui fait déjà un état la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture pour permettre d'atteindre des objectifs de développement durable. Et puis ensuite des publications scientifiques comme par exemple Chopin en 2013 qui parle véritablement de l'aquaculture multitrophique intégrée, ou alors de Kobayashi et Hall sur une vision plutôt à horizon 2030 par exemple sur les rôles et opportunités pour l'aquaculture.
Il y a encore beaucoup de travail, en tout cas pour convaincre, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est un travail de chaque jour et de plusieurs années.
Stéphanie Pedron, merci. Je rappelle que vous êtes directrice du CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues à Pleubian dans les Côtes-d'Armor. Votre site internet, c'est le www.ceva-algues.com. Merci également à David Morvan de Radioactive pour la réalisation de ce duplex. Retrouvez toutes nos émissions en podcast sur le site corlab.org, rubrique podcast et biodiversité en air. À très vite donc pour un nouvel épisode de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par l'Accorlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.